Chapitre 58. 4 octobre 1998, 6h29. Marc gara le camion Citroën sur un parking du centre-ville de Montbéliard, à moins de 50 mètres des bureaux de l'Est républicain. Il avait mis environ 1h30 pour redescendre du Mont Terrible. Le camion l'attendait sagement devant la maison du parc naturel, puis 3 quarts d'heure pour rouler jusqu'à Montbéliard. Le serveur du premier café ouvert lui avait indiqué l'adresse de l'Est républicain, 12 place Jules Viette. Les bureaux du journal étaient fermés. Logique. À cette heure, qu'espérait-il ? Il s'avança, il s'accrochait à sa chimère, découvrir une vérité définitive avant que Lily n'entre en salle d'opération, dans moins de 4 heures maintenant. Devant lui, un rideau de fer interdisait d'apercevoir le moindre détail à l'intérieur des bureaux. Marc se retourna, observa le parking où il était stationné. 3 camions peints au logo de l'Est républicain étaient garés. Visiblement, à 7 heures matinale, la livraison des journaux du matin n'était pas achevée. Tout n'était pas perdu. Marc marcha rapidement sur le trottoir, suivit le boulevard Cuvier, puis tourna dans l'impasse Maurice de Lorraine. On s'y activait. Une camionnette était stationnée en travers de la rue et 3 ouvriers chargeaient à l'arrière des piles de journaux emballées dans de la cellophane. Une radio locale braillait. Un animateur hilar déclinait l'horoscope. « Bonjour, » fit Marc. « Les bureaux sont fermés ?» Il se mordit les lèvres. Difficile de faire plus con comme question. L'ouvrier le dévisagea et répondit, sans même retirer la cigarette de sa bouche. « Oh, t'as du bol, hein ? J'ouvre le secrétariat dans 5 minutes. » Marc fut ébloui par une brève lueur d'espoir. À peine le temps que l'ouvrier continue, juste le temps d'enfiler une jupe et je suis à toi. » Les 2 autres manutentionnaires pouffèrent. Marc accusa le coup. « Reviens dans 3 heures, mon mignon. Là, tu vois, on est occupé. » Marc se planta devant l'ouvrier. Le petit gars mignon le dominait tout de même d'une tête et demie. Il la joua modeste. « Je peux pas attendre, monsieur. Je vous le demande comme un service. Il n'y a vraiment personne qui puisse m'ouvrir les bureaux. Je veux juste un renseignement. »«
Il peut toujours demander à l'adjudante, »
répondit la voix d'un autre manœuvre au fond de l'entrepôt. Les 3 employés éclatèrent à nouveau de rire. Pas Marc.
« Oh ben, après tout, hein, si tu y tiens, mon garçon. »
L'ouvrier appuya sur un petit interphone.
« Madame Montaigu, nous avons quelqu'un pour vous à l'entrée de l'entrepôt. »
Quelques minutes plus tard, la dite Madame Montaigu apparut. L'adjudante était un petit bout de femme élégante. Le tailleur cintré sur une taille de guêpe, la jupe tombant juste aux genoux, les jambes bronzées plantées dans des escarpins rouges. Le tout gâché par un visage trop sévère, exprimant clairement les années de privation pour gravir chaque échelon de la hiérarchie de l'entreprise. De petites lunettes étaient posées au bout de son nez, une main tenait une pile de longs listings et l'autre un stylo. L'adjudante.
C'est pourquoi ?
Fit le visage fermé. Marc essaya d'improviser un plan. Que dire ? Quel prétexte inventer pour que l'adjudante Montaigu accepte d'ouvrir ses archives à 7 heures du matin ? Sortir le Moser L110 et la braquer ? Ridicule.
« Alors ?»
insista Montaigu, un coup d'œil sur sa montre par-dessus ses lunettes. Marc paniqua. « Écoutez, j'ai besoin de consulter un vieux numéro de l'Est républicain. Très vieux même. C'est précis. J'ai besoin de consulter le numéro du 23 décembre 1980. » L'adjudante afficha un petit sourire.
« Vu votre état, je suppose que c'est urgent ?»«
Pire que ça. » »«
Bien. Aussi urgent que ce soit, je pense que cela peut attendre l'ouverture de l'accueil. » À 9h.
Les 3 manœuvres qui continuaient de charger les piles de journaux ne rataient rien de la conversation. Montaigu tournait déjà les talons qu'elle avait hauts et fins. « Non !» cria Marc. L'adjudante se retourna, parvenant à mimer une attitude plus excédée encore. Marc se lança, sans calculer. « Écoutez-moi, ma femme attend un enfant, notre enfant. Elle doit se faire avorter dans 2 heures parce qu'elle a un doute sur l'identité de ses parents. » J'ai de bonnes raisons de croire que la preuve de cette identité se trouve dans ce journal. » L'adjudante Montaigu afficha des yeux ronds, stupéfaits. Les 3 ouvriers s'étaient arrêtés, net.
Montaigu les fusilla du regard, ils reprirent le travail illico. Elle braqua ensuite sur Marc son regard exaspéré.
« Vous voulez empêcher votre femme d'avorter, c'est cela? Vous croyez vraiment que... »«
Merde ! Vous n'allez pas me sortir une tirade féministe à la con ! Je veux seulement regarder ce journal. Je vous demande juste une chance, une petite chance !» Il était au moins parvenu à déstabiliser l'adjudante. Marc enchaîna. « Vous vous souvenez de la catastrophe aérienne du Mont-Terrible, au moins ?» Montaigu secoua négativement la tête. « Logique, pensa Marc. Elle ne devait pas avoir beaucoup plus de 10 ans à l'époque. Tant pis, il devait continuer. L'Est républicain avait été le seul journal à titrer sur le crash à l'époque. Libellule, la miraculée des neiges, c'est d'elle qu'il s'agit. C'est ce numéro-là que je veux consulter. » Visiblement, l'adjudante n'y comprenait rien. Elle était larguée, elle n'aimait pas ça. Elle avait appris dans son école de management qu'il ne fallait jamais prendre une décision avant d'avoir suffisamment d'éléments en main pour se faire une idée précise de la situation.
« Marcel, vous qui êtes de la maison depuis 40 ans, vous vous souvenez de cette histoire de crash aérien sur le Mont Terrible ?»
Marcel n'attendait que ça. Il avait discrètement craché sa cigarette dans la rue.
« Oh ben, vous pensez, madame, le plus gros drame de la région, Noël 1980 ? Près de 200 morts là-bas, là-haut, tout près. »
Le journal avait été impliqué ?
Vous pensez. Il a été le seul à titrer sur l'affaire, le matin même. Sur la rescapée surtout, la seule. Un petit bébé, une petite fille. Toutes les télés avaient repris l'info ensuite. Le journal a tenu une chronique pendant des mois. Je vous passe les détails, mais...
Vous vous souvenez comment elle s'appelait, la rescapée ?
Pour sûr. Comment oublier ? Émilie Vitral, une petite Normande.
Montaigu se retourna vers Marc.
Et vous, vous êtes qui ?
Marc Vitral.
Son mari ?
Marc hésita un instant. Oui, enfin non, c'est un peu compliqué. Elle ne releva pas.
À quelle heure votre femme doit-elle se faire avorter ?
10 heures.
Ici ?
Non, à Paris.
Oh, c'est dingue. Vous êtes dingue ?
C'est urgent. Je veux juste consulter ce journal. Je vous promets, si on sauve l'enfant, vous serez la marraine. L'adjudante éclata franchement de rire.
Oh, n'importe quoi! On ne fait surtout pas ça, je déteste les mômes!
Elle laissa passer une dernière hésitation.
Bon, allez, suivez-moi.
Montaigu l'installa au sous-sol, dans une vaste pièce qui servait de local d'archives. Les murs n'étaient pas peints et, en l'absence de fenêtres, seuls de longs néons l'éclairaient d'une lumière blanche. Le classement était d'une grande simplicité. Dans de grandes armoires de bois, les numéros de l'Est républicain étaient rangés à plat, classés par année, puis par trimestre. Marc ouvrit le tiroir marqué 1980, septembre-décembre. Il chercha directement vers le fond de la pile et trouva sans difficulté le numéro du 23 décembre. Il le posa sur la table de travail, au centre de la pièce. Une immense photographie en couleur occupait presque l'intégralité de la une. Une carcasse d'avion fracassée au milieu d'arbres en flammes. Une vision d'horreur. La neige, le feu et le fer semblaient s'être unis pour anéantir toute vie humaine. L'espoir était figuré par une autre photographie, plus petite, montrant un nouveau-né porté par un pompier devant l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Lily. Quelques lignes commentaient la photographie. Crash dramatique de l'Airbus 5403 Istanbul-Paris sur les flancs du Mont Terrible, à la frontière franco-suisse dans la nuit du 22 au 23 décembre 1980. 168 des 169 passagers et membres d'équipage ont été tués sur le coup ou ont péri piégés dans les flammes. Seul miraculeux rescapé, un bébé de 3 mois, éjecté lors de la collision avant que la carlingue ne prenne feu. C'était tout. Marc passa de longues minutes à observer les clichés, les visages au second plan, la carlingue, les flammes, chaque arbre, les traces sombres dans la neige, à lire et relire les quelques lignes. Rien. Rien de nouveau. Une fausse piste, une impasse, encore. Définitive cette fois. Marc se prit la tête entre les mains, se redressa un peu, observa les murs blancs de la pièce. Ce fut alors seulement, que ses yeux se posèrent sur les autres informations de la une du journal. Presque rien. La victoire 3-1 du FC Sochaux contre Angers. une manifestation des ouvriers de la lunetterie, près de Moret, dans le Haut-Jura. Le détail de la tournée du Père Noël dans les communes de la région. Et tout en bas de la page, presque un entrefilé, 9 mots seulement, un avis de recherche. Mélanie Belvoir, 18 ans, disparue depuis maintenant 3 semaines. À l'avis de recherche était associée une petite photographie d'identité, en couleur, 3 cm sur 2. Marc manqua défaillir. C'était impossible. Il ne pouvait s'agir que d'un faux, un trucage. Le visage de cette fille de 18 ans, Mélanie Belvoir, était celui de Lily. Pas la photographie d'une fille qui lui ressemblerait, non. C'était elle, le même regard bleu azur, la même forme des pommettes, le même sourire, la même fossette au milieu du menton. Seule la coiffure différait légèrement, les cheveux de Lily étaient un peu plus courts. La photographie publiée dans ce vieux journal était le fac-similé exact de la photographie actuelle de Lily, de celle agrafée sur sa carte d'étudiante, de celle collée sur sa carte orange de la RATP, de celle que Marc conservait précieusement dans son portefeuille. C'était insensé. Sur la même page de ce journal du drame, daté du 23 décembre 1980, une photographie représentait Lily, âgée de 3 mois, portée par un pompier devant le centre hospitalier, et Lily, âgée de 18 ans, belle, souriante, telle qu'il l'avait quittée 2 jours plus tôt, le 2 octobre 1998. Devenait-il fou ? Vivait-il un rêve dont il allait se réveiller en sueur aux côtés de Lily ? Ou pire, aux côtés de Malvina dans la cabane du Mont Terrible.